à l'époque.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulce, lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción.
Une autre occurrence est fortement liée à l'histoire argentine. On parle de la dernière dictature militaire qui a duré de 1976 à 1983. La persécution du gouvernement force à l'exil plusieurs artistes, comme Mercedes Sosa, la chanteuse la plus représentative du folklore argentin, que l'on surnomme « la voix de l'Amérique latine ». Affiliée au parti communiste opposé à la dictature, elle s'exile à Paris en 1979, où elle enregistre un album nommé « À qui je donne ». Très chargé des paroles qui parlent de la douleur et de la tristesse que Mercedes a ressentie lorsqu'elle était loin de sa partie, de sa patrie. Ce verset est inclus dans l'album. « Si je m'en vais, tout ce que je suis m'accompagnera. Loin de moi, loin d'ici, je ne serai pas moi. Laissez-moi être, seulement être, en regardant le soleil retourner. Je veux regarder dans mon pays le lever du soleil. »
Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, solo estar, viendo el sol volver.
Merci Leandro d'avoir contribué à resserrer ces liens entre cette Amérique du Sud, cette Amérique latine et la France. Merci d'avoir resserré ces liens entre l'Argentine et nous. Nous poursuivons toujours cette émission avec Octave, c'est-à-dire Arnaud et Gérard qui sont avec nous. Nous parlons de gouvernance partagée. On a parlé de tout un tas de choses, mais moi je voulais revenir un petit peu sur ces notions d'apprentissage en faisant, parce que ça fait écho, moi, quand même, à un concept qu'on manipule beaucoup à Principe Actif, qui est celui de l'éducation populaire. Ça ressemble beaucoup à ces fonctionnements, en fait, ces gouvernances où on apprend en faisant, où on échange avec les autres, on compte sur l'intelligence collective. Il y a des liens, il y a un lien de filiation avec cette éducation populaire que j'évoque, où je suis à côté de la plaque. Ah, elle est peut-être compliquée cette question. Hein.
Non, c'est parce que je pense qu'on peut avoir différentes réponses là-dessus, mais de toute façon, c'est quoi ? C'est l'évolution de la vie. On apprend tous les jours, et moi qui commence à avoir un peu d'âge, j'aime bien continuer à apprendre déjà. Et on ne peut apprendre que des autres. On peut apprendre soi-même sur des trucs, mais moi je regarde en bricolage, maintenant c'est mon fils qui m'apprend à bosser, quoi. C'est hyper intéressant.
C'est considéré que l'autre, enfin, partir du postulat que l'autre a des choses à m'apprendre ou des choses à partager avec moi, c'est pas je sais mieux que les autres. Enfin, il y a cette posture là quand même.
Ah bah oui, on est tous, on va dire, plus intelligents que l'autre. Maintenant, faut avoir le respect de savoir être moins intelligent aussi, et de laisser les autres résoudre des problèmes ou les résoudre ensemble. Et ça, c'est encore plus important. Je t'aide, tu m'aides, on essaye de comprendre. Si on ne trouve pas une solution, on consulte quelqu'un d'autre, etc., etc.
Oui, je veux bien dire un truc là-dessus.
Oui, vas-y, vas-y.
En fait, les mouvements d'éducation populaire, ils sont nés après la guerre, parce qu'on a constaté qu'un certain type d'éducation n'avait pas permis d'éviter l'horreur qu'on a connue à ce moment-là. Et donc, les mouvements d'éducation populaire se sont mis sur les temps libres, parce qu'il ne restait que ça. Et c'est sur ces temps libres qu'ils ont souhaité éduquer les enfants et les adultes qui travaillaient avec eux à autre chose. Donc, évidemment, c'est d'éducation au sens large du citoyen qu'il nous faut réinvestir aujourd'hui, mais pas simplement sur les temps libres, ça va pas suffire.
Alors, c'est-à-dire, quand on dit pas sur les temps libres, sur quels autres temps alors ? Sur le temps du travail aussi,
oui,
sur
voilà,
le temps.
L'entreprise est un lieu d'apprentissage. L'école est un lieu d'apprentissage, évidemment, mais d'apprentissage de ce qui me paraît fondamental, c'est-à-dire la coopération, par exemple, la prise de décision, toutes ces choses-là, l'exercice de la parole, l'exercice d'être vraiment ensemble, mais pas de manière divisée, et pas en apprenant à être les uns contre les autres, ou pas dans la logique du concours ou de la compétition, mais vraiment être tourné vers ce qu'il nous faut pour pouvoir sortir de ce chaos qui nous pend au nez, c'est de vraiment se mettre au boulot pour fabriquer tous ensemble ce qu'il faut, quoi.
Est-ce qu'on peut s'entraîner aussi en famille à la gouvernance partagée, je ne sais pas, pour préparer des vacances par exemple ensemble, éviter un peu les conflits entre gamins, ou s'assurer que tout le monde puisse apprécier le moment peut-être, que les tâches soient réparties? Est-ce que là c'est des endroits par exemple où on peut commencer à exercer ça?
Oui, bien sûr, on peut se dire qu'une famille, quand des jeunes deviennent parents, ils n'ont rien appris de tout ça, donc ils se retrouvent à créer une cellule familiale qui en soi est déjà un groupe dans lequel il va falloir prendre des décisions. S'il n'y a pas eu une éducation préalable à ça, alors on se retrouve avec des... Les gens font ce qu'ils peuvent avec ça, mais bien sûr que la famille est aussi un lieu d'apprentissage.
C'est... Une émission de radio, c'est pas un lieu d'apprentissage. Non, pardon, non, c'est une blague. C'est pas du tout.
Non,
mais je la vois venir. Elle est en train de dire oui, on va tous participer et tout.
Non, mais voilà, c'est d'interroger aussi comment on peut soit s'y mettre progressivement et puis faire un peu bouger les choses, puisqu'on disait qu'il fallait pas attendre que ce soit que dans les loisirs ou,
tout à
ou
fait.
Dans l'entreprise, peut-être.
Tout à fait. Mais c'est, en tout cas, dans ce qu'on dit depuis le début, finalement, ça s'exerce tout le temps, en permanence, cette posture et cette façon d'être. Alors, j'allais dire, je reprends le mot, en gouvernance partagée, mais c'est être surtout en interaction avec l'autre et considérer la vie de l'autre, le ressenti de l'autre, et pas vivre que dans sa bulle, quoi.
J'aimerais bien amener un terme, en fait, parce que qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de l'entreprise, de l'école, etc., ou du conseil municipal, ou du parlement, ce dont il faut réussir à sortir, c'est cette position de dominant. Nous avons l'habitude d'être dominé ou d'être le dominant, et on ne peut pas vivre de manière satisfaisante avec ce principe-là.
C'est changer vraiment le logiciel de lecture du monde, quoi.
Nous
tout simplement.
Un principe actif.
Bravo. Alors, justement, pour pouvoir discuter et avancer, ce samedi, vous avez un temps de réunion, de travail, de génération d'intelligence. Ce samedi au Clos-au-Duc, où chacun est invité à venir échanger avec vous, discuter, produire de l'intelligence, c'est ça l'idée. L'objectif, c'est de savoir comment ce collectif s'enrichit et vers quoi.
Bah, oui, c'est notre première rencontre, je veux dire, pour cette année, parce que on a eu l'expérience en 2014.
Ça avait débouché sur une présentation de liste à la mairie d'Évreux, enfin pour la municipalité d'Évreux, il y avait une liste qui avait été créée à ce moment-là.
Oui, tout à fait. C'était ça a pris la même forme. Après, il y a eu beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, et ils ont décidé de faire une liste.
D'accord.
Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, d'autres qui étaient d'accord. À cette époque-là, déjà.
C'était un des cercles. En fait, quand tu évoquais les cercles tout à l'heure de compétences, finalement, c'était un des cercles qui était monter une liste municipale, c'était ça?
Voilà, en gros, c'est un peu ça.
Ouais. Avec d'autres cercles qui étaient en interaction avec.
Et on parlait déjà de comment partager ce pouvoir. Sauf qu'on n'avait pas les outils. On ne savait pas quel outil utiliser. Et c'est ce qui nous a amené à travailler dessus cette année. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question.
Peu importe, des fois la question c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est la réponse souvent qui vaut le coup. Non mais c'était sur ce temps de rencontre de samedi prochain, samedi 24 à la maison de quartier du Clos-au-Duc. Vous invitez chacun et chacune à venir échanger, discuter et voir sur ce que ça va produire comme intelligence, c'est ça l'idée quoi. Et sur quoi en action, sur quelle action ça peut déboucher.
Oui, puis déjà, voir si ça intéresse les gens, parce que là, nous, on a travaillé entre nous, et puis on vient tardivement, parce que on voulait avoir quelque chose de fini. Maintenant, on ne sait pas si vraiment ça intéresse les gens ou pas, mais bon, la politique, en général, maintenant, n'intéresse plus les gens, puisqu'ils ne sont pas impliqués, voire ils sont plutôt impactés par la politique. Donc, je comprends qu'ils ne s'y intéressent pas.
Nous, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire, de manière très pragmatique, quel est le pas qu'on peut faire à Évreux aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on réfléchit là-dessus. Et notre idée, c'est que ce n'était pas forcément à nous de dire comment la gouvernance partagée à Évreux pouvait se mettre en place, même si on a quelques idées, mais qu'on avait envie de faire la promotion d'une convention citoyenne sur le modèle de ce qui a existé au niveau national, la convention citoyenne pour le climat. On s'est dit que ça pourrait avoir lieu à Évreux, en tirant au sort, par exemple, un certain nombre de citoyens qui, mis dans certaines conditions, pourraient faire un vrai travail intéressant de construction de propositions sur comment effectivement ça pourrait se mettre en place sur la ville d'Évreux. Et donc, en attendant la mise en place de cette convention citoyenne, l'idée, ça serait de créer un comité constituant qui va nous permettre d'élargir ce premier cercle que nous avons constitué pour finir de créer le cadre de cette convention citoyenne pour la gouvernance partagée à Évreux. C'est ce que nous allons présenter samedi.
Si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'on prend la convention citoyenne du climat, pour exemple, mais la finalité n'est pas d'en faire ce que l'on veut après, comme en a fait notre cher président. C'est-à-dire qu'il n'a pas appliqué du tout un protocole de mise en place de ces décisions citoyennes. Et nous, là, justement, ce qu'on veut, c'est vraiment cadrer ce système-là. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent, ils peuvent pas aller faire marche arrière et dire c'est bien vos idées, mais on les utilise pas. Non.
Oui, c'est ça, c'est une fois que la consultation est faite, une fois que la décision est prise, il faut que l'action suive forcément. Effectivement, tu évoquais à l'instant, Gérard, la Convention pour le climat qui n'a pas débouché sur beaucoup d'actions mises en place par les opérateurs. Il y avait vraiment une foultitude de propositions. Ouais, c'est ça, c'était vraiment. Il y avait vraiment de la matière hyper intéressante, clé en main pour certaines propositions qui étaient plus qu'à mettre en œuvre. Et c'est après, j'ai envie de dire, la surcouche politique qui a fait un choix, qui n'allait pas dans le sens de cette commission, justement. Justement, c'est important de réfléchir. Tout à l'heure, Gérard disait, on n'a pas été super rapide, on est un peu court dans les délais ou autre. Finalement, ce mode de gouvernance demande forcément une notion du temps long. J'ai la sensation que, en fait, ça peut pas être du temps rapide dans ce fonctionnement.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'une civilisation qui promeut la performance. Je mettrai en opposition à ce terme-là, celui de robustesse. Si on cherche la robustesse, alors il faut qu'on prenne du temps. Nous avons besoin de discuter, nous avons besoin de nous installer dans un temps long et pas au rythme des élections. On a besoin de se projeter dans le temps et de créer quelque chose de robuste, et pour ça il faut du temps, ça c'est évident.
J'aurais presque même envie de soumettre l'idée, à votre approbation ou pas, mais que finalement l'exercice de ces gouvernances collectives s'apprenne au fur et à mesure de les faire, et finalement au démarrage il est d'une logique implacable le fait que ce soit lent et laborieux même éventuellement.
Oui.
Et que ça fasse partie du processus sans aucune anomalie, quoi.
C'est du tâtonnement expérimental social, en fait. On doit s'engager là-dedans. C'est du tâtonnement expérimental social. Et l'erreur fait partie du processus. Il faut absolument se planter et constamment évaluer ce qu'on est en train de produire. C'est un travail très pragmatique. On essaye des choses, on prend des décisions, on essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas, on réajuste.
Je voulais rajouter là-dessus que c'était quelque chose de très difficile, parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure du fait qu'on était des animaux, on est quand même des mammifères, donc on va chercher le confort. Et donc, psychologiquement et cognitivement, en fait, changer des habitudes, c'est très compliqué pour nous. Ça demande un réel effort et ça demande du temps, en fait. Donc, c'est même totalement prouvé scientifiquement qu'il faut se coller à l'exercice plusieurs fois pour créer de nouvelles liaisons, en fait, entre les neurones. Donc, effectivement, ça prend du temps et il faut un peu s'exercer. Et donc, du coup, ça doit être intéressant d'avoir plusieurs cercles où on peut peut-être éventuellement rejoindre en fonction de nos appétences pour se dire, ok, là, je vais sur un entraînement qui me plaît, quoi. Ça a l'air chouette dans ce que vous proposez.
Oui, le comité constituant là, qui serait en charge d'élaborer le cadre de la convention, c'est lui-même déjà un premier exercice. Notre cercle, ça nous a pris du temps de mettre ça en place parce qu'on a appris à être ensemble, à prendre des décisions. Ça sera le cas du comité constituant. C'est cette logique-là.
Gérard, tu souhaitais rajouter quelque chose?
Ouais, est-ce qu'on a... Pardon. ce qu'on a compris dans notre fonctionnement, c'est qu'on était vraiment impacté par notre éducation, alors judéo-chrétien, mais aussi le patronat, etc., les syndicats. Et en fait, on a l'impression d'avoir la connaissance en nous. Et bien souvent, on entend quelqu'un et on dit Puis une fois qu'elle a développé, on se dit « Ah ouais, peut-être que moi, je n'avais pas vu ça ». Et ça, c'est hyper intéressant. Même moi, ça m'aide à me construire aussi. Parce que j'ai le droit à l'erreur, comme tout le monde.
Ça me fait penser à chaque fois, là, ces droits à l'erreur qu'on défend, nous aussi, ces fameux droits à l'erreur. Ça me fait penser à un proverbe Shadok qui disait « C'est en essayant continuellement qu'on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus ça a de chances de réussir. » J'aimais bien, moi, cette philosophie derrière.
Et les Shadok pompaient.
Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui nous attend, nous aussi? Je vous propose une courte pause musicale. On retrouve notre ami du futur juste après et nous conclurons avec une dernière partie autour de cette gouvernance partagée. Alabama Shakers avec Hold On, c'est le nom du titre que nous venons d'écouter.
le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HVR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Un pied dans le présent, un pied dans l'avenir. C'est Antoine 2.0 qui vient nous visiter du futur. Bonjour Antoine.
Bonjour JC, je viens utiliser mon droit à l'erreur comme on l'a parlé il y a quelques minutes. Alors je sais pas si vous avez vu, mais on a commencé l'année 2026 sur les chapeaux de roue à l'international. D'un côté, les débats enflammés autour du Mercosur. De l'autre, les multiples ingérences étrangères de la plus grande puissance mondiale. Et tout ça ferait presque passer nos affaires de politique intérieure pour... simple. Attention, à compter de la fin de cette chronique, je pense que mon visa pour les États-Unis va sauter au moins jusqu'à la fin du mandat du Simpson Orange. Alors, je vais pas là vous parler du Groenland ou du Venezuela, bien que je pense qu'il faille bien évidemment protéger le dernier, je me prononcerai pas sur le second, faute de culture sur le sujet. Par contre, en rebondissant sur le Groenland, je voulais ce matin vous partager l'alerte que sonne la communauté de la technologie depuis un moment. Notre souveraineté numérique en Europe, et plus particulièrement en France, parce qu'on est un peu égoïste quand même. Le problème est assez simple. Depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, le monde s'est complètement digitalisé. Et bien souvent, on l'a fait en employant des solutions provenant des États-Unis ou qui se sont fait racheter par des compagnies des États-Unis. Or, après que leur président ait passé les derniers jours à jouer avec les tarifs douaniers pour qu'on le laisse envahir le Groenland, on ne voit pas bien quelle raison l'empêcherait plus tard de tenter de nous faire ses pressions au sujet de nos services numériques et ses amis de la Silicon Valley d'appuyer sur le bouton rouge. Alors, avant que vous n'ayez le temps de penser qu'on s'en moque, laissez-moi vous expliquer toutes les implications. Déjà, malgré toutes les contre-indications gouvernementales, le ministère de l'Éducation nationale a renouvelé son contrat avec Microsoft l'an dernier. Microsoft proposant notamment des systèmes pour les ordinateurs, mais aussi des outils bureautiques, traitement de texte, tableur et autres. Une dépendance à ces outils est problématique. On s'enferme dans
T'as dit que t'avais le droit à l'erreur.
Ah bah là, je l'ai utilisé plein de fois. Une dépendance à ces outils est problématique. On s'enferme dans des environnements et le jour où l'entreprise est bien assise, l'éditeur peut choisir de multiplier ses prix par le facteur de son choix. D'autre part, cela pose des questions sur l'usage des outils de cloud de Microsoft, une firme états-unienne, pays dont la loi impose les entreprises à fournir les données utilisateurs aux autorités, qu'importe l'origine de ces données, et ce, sans informer les 10 utilisateurs sur simple réquisition. Encore pire, nous avons fait stocker nos données de santé chez Microsoft depuis 2019. Une décision critiquée dès 2020 et le gouvernement promet depuis 2022 de migrer vers une plateforme souveraine. Promesse qui devrait être peut-être exaucée en 2026, puisqu'un appel d'offres dans ce sens a été lancé en juillet dernier. Avouez qu'avec le détail que je viens de glisser juste avant, ça fait un peu froid dans le dos. Puis la dépendance aux services états-uniens n'est pas que dans le public, nos entreprises privées se sont encore plus fortement intégrées dans les services numériques des GAFAM, et même nous, à titre individuel, si je lance un sondage autour de la table, combien d'entre vous utilisent un mail chez Microsoft ou Google et stockent la sauvegarde de son téléphone directement chez Apple ou Google ?
Arrête de poser des questions qui fâchent.
J'avais vu venir. D'ailleurs, les GAFAM eux-mêmes reconnaissent le problème, puisqu'ils ont récemment lancé des initiatives de cloud qu'ils vendent comme souverains, avec des entités juridiques complètement séparées des entités états-uniennes. Tiens, c'est drôle qu'on lance l'appel d'offres pour souverainiser la plateforme de données médicales, justement quand Amazon, Google et Microsoft se mettent à proposer ce genre d'initiative. Comme si on n'avait pas de champions européens comme les Français de OVH et Scaleway pour la location de ressources, ou les Suisses de Proton et Infomaniac pour l'aspect bureautique en cloud. D'ailleurs, si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous renseigner sur Proton et Infomaniac. Ils ne vendent pas vos données à des privés, eux, au moins. Et puis c'est européen. Aussi, toutes ces logiques d'engagement sont souvent poussées par des consultants bien alignés aux produits des États-Unis, des directions qui cherchent à réduire leur périmètre technique justement en les sous-traitant, et qui profitent de la crédulité face à toutes les fausses promesses du cloud. Regardez, quand l'incendie d'OVH a eu lieu il y a quelques années, tout le monde s'est congratulé d'avoir tout mis chez les GAFAM. Par contre, sur la deuxième partie de 2025, on a connu deux pannes d'Amazon puis de Microsoft, et je crois que les directions techniques faisaient beaucoup moins de blagues à ce moment-là. Enfin bref, prenons soin de nos données, contrairement au Groenland, elles sont plus en danger que notre territoire.
Merci Antoine pour cet œil avisé sur des éléments en plus que nous ne maîtrisons pas toujours, voire rarement. Merci à toi. Nous sommes toujours avec Arnaud et Gérard de Octave, le collectif, l'association Octave qui travaille autour des questions de gouvernance partagée. On a échangé pas mal. Il y avait un point quand même qu'on souhaitait aborder avec Gérard. C'était souvent notamment ce qu'on appellerait des déviances de gouvernance. Parfois, une gouvernance, quand elle est centralisée, eh bien, il peut y avoir parfois du conflit d'intérêts ou des choses de ce type. Mais vous avez réfléchi à des solutions, Gérard, non ?
C'est justement, ouais. En fait, quand quelqu'un, moi par exemple, je vais aller vers des gens que je connais. Ça va être le voisinage, ça va être des collègues de boulot, c'est un milieu social. Donc naturellement, on fait tout ça. On parle qu'aux voisins, on ne connaît que les voisins. Donc intrinsèquement, les gens qui sont au pouvoir, ils font la même chose.
Ils appellent leurs voisins.
Ouais. Donc ce qu'on veut, c'est que ça aille au-delà. Donc peut-être que... Alors on a réfléchi à un truc, nous. Alors maintenant, c'est peut-être à généraliser. Et je vais passer la parole à Arnaud après. Mais en fait, on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser le tirage au sort ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être une personne qui est ailleurs et qui se dit non, je ne vais pas appeler monsieur Tractopelle ou... voilà. Et puis, ça permet de changer les gens.
Ça permet d'avoir un regard plus large, finalement, ce tirage au sort. Il est souvent évoqué à plusieurs strates des gouvernances partagées, des gouvernances collectives, des gouvernances voyées, enfin, tout ça. Et souvent, on parle du tirage au sort. C'est ce qu'il y a de plus objectif, quasiment. Enfin, c'est aléatoire, donc objectif.
C'est quelque chose qu'a montré qui fonctionnait. En tout cas, c'est peut-être pas le mieux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est sûr.
Ça permet beaucoup d'ouverture. D'ailleurs, la Convention citoyenne, ça avait été des tirages au sort. La Constitution.
Oui, les 150 citoyens avaient été tirés au sort. Ça venait de tous les milieux sociaux. Il y a des gens qui n'y croyaient pas, qui se sentaient complètement incapables de travailler à ce. Et ils se sont mis dans un mode apprentissage. Ils sont devenus experts et finalement se sont sentis légitimes de construire ces propositions. Donc on a vu en fait que cette convention citoyenne, c'est sans doute pour moi la meilleure chose en fait que Monsieur Macron a fait, c'est d'avoir fait voir que ça pouvait fonctionner et que les citoyens étaient des grandes personnes qui étaient capables de réfléchir quand l'environnement était propice et de devenir extrêmement pertinent.
Et il l'a effacé. Hein. On voulait donner un petit exemple avec, justement, sur la souveraineté avec les agriculteurs et les Gilets jaunes, par exemple. Les Gilets jaunes, effectivement, c'était un mouvement global, mais les problématiques étaient différentes d'une personne à l'autre. Mais l'objectif était que tout le monde ait un peu de bien commun. On regarde ce qui se passe avec les agriculteurs en ce moment, où il y a vraiment une polémique entre des syndicats souverains qui possèdent pas mal de choses, donc par leur président, ça on le voit, et où les décisions nationales se prennent par rapport à ce personnage. Donc là, nous, ce qu'on voulait dire, c'était... Si on fait un tirage au sort, au lieu d'être le syndicat truc, ça peut être aussi le syndicat machin, mais ça peut être aussi des citoyens ou ça peut être n'importe qui. Et donc, à un moment donné, sa décision de cette personne-là, qui ne sera pas forcément compétente, va être obligée de développer un cercle de discussion pour avoir le tenant et les aboutissements de tout le monde. Et c'est là où c'est important, ce n'est pas une décision qui est prise. On a parlé des Gilets jaunes, des agriculteurs. Par exemple, là, sur les agriculteurs, oui, on connaît la problématique. Nous, à Évreux, on l'a aussi. Hein, le monopole, c'est Carrefour. Ici, à Évreux, il suffit de regarder tous les petits centres commerciaux de quartier qui existaient avant. C'est un monopole Carrefour et d'autres grandes sociétés. Mais qu'est-ce qui impliquerait de dire, on n'y connaît rien en agriculture. On va voir les agriculteurs. On veut avoir de la viande de qualité, des légumes de qualité. Comment on peut faire pour ouvrir un commerce avec nos voisins agriculteurs? Et ça peut être aussi... Le tirage au sort peut être important pour dire, on va interroger tel agriculteur plutôt qu'un autre, plutôt que de dire, moi j'en connais un, il peut venir vous parler. Non, c'est pas la parole, quoi.
Juste un petit truc sur le tirage au sort, ce que ça permet, il y en a d'autres, il y a l'élection sans candidat par exemple, il y a beaucoup de choses d'autres qui sont expérimentables, oui. Et ce que ça permet, c'est de faire accéder au poste de pouvoir des gens qui n'ont pas l'ambition du pouvoir, mais qui se retrouvant dans ces fonctions-là, finalement vont révéler, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir, quand on aide à la prise de décision, on n'a pas besoin de savoir, on va chercher des gens qui savent, on met en route l'intelligence collective et on apprend en marchant. Et je pense que il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans des positions de pouvoir, qui ont un certain profil. Il faut changer ce profil-là.
Il paraît que d'ailleurs pour accéder au pouvoir, de toute façon, il faut avoir un profil pour passer toutes les étapes, avoir suffisamment d'ambition, d'avoir possibilité d'écraser un petit peu les uns et les autres. Donc du coup, après, on peut pas s'étonner que les représentants soient de cette nature-là, vu que pour accéder au pouvoir, faut être de cette nature. Voilà. Et puis je voulais revenir sur un autre truc. Il y a finalement cette histoire de tirage au sort, c'est vieux comme le monde. Oui. Déjà, les dinosaures, quand ils étaient pas d'accord, ils faisaient un tirage au sort.
Oui.
Ah ouais.